Bonjour. Et aujourd'hui, on va commencer la nouvelle lecture suivie dans Pierre. Et ce matin, donc, nous allons aborder le début de l'épître de Pierre. Et Josué nous le rappelait mardi, lors de la présentation de l'épître, que Pierre, il va écrire aux églises du début du siècle. Il va écrire aux églises dispersées. Et il va aborder tout un tas de sujets essentiels pour le bien de ces communautés. Et il faut préciser que dans le monde dans lequel ils vivent au début du siècle, c'est un monde, ça n'a pas beaucoup changé, je choquerai personne en disant ça, qui a rien à voir avec la pensée biblique. Le monde du début du siècle, c'est un monde qui exalte la pensée, qui exalte tout ce qui est de l'intellect. Le corps et la chair n'ont pas de valeur. C'est un monde où seulement la nation, la tribu, où le clan comptait, où l'individu n'avait pas de valeur en lui-même. C'est un monde qui était idolâtre dans toutes les pensées et tous les courants philosophiques qui existaient à l'époque. Et toutes ces petites communautés étaient perdues dans l'Asie mineure, hein, c'est là où s'adresse l'épître de Pierre. Il va parler à ces chrétiens qui sont perdus au milieu de ces courants. Et quand on le lit pourtant, parce que nous l'avons lu mardi, et on l'a lu, peut-être si vous l'avez lu, moi je l'ai lu quand je l'ai préparé, cet épître nous parle tellement à nous. Parce que l'épître de Pierre, Bible en main, on va comprendre que l'épître de Pierre, dans toute sa globalité, mais nous, on va s'arrêter sur les 12 premiers chapitres, les 12 premiers versets, pardon, du chapitre 1, parce qu'il n'y a que 5 chapitres déjà. En fait, il va nous parler parce qu'il a un point de vue universel. Pierre, il parle à des chrétiens qui sont dans des difficultés dans un monde hostile à l'évangile. Voilà ce que Pierre fait. Contrairement à Paul, qui va dire aux les Colossiens, les Éphésiens, les Corinthiens, où c'est que ça va être très ciblé, ici, Pierre, il va cibler tout au début les communautés chrétiennes, mais finalement il s'adresse à tous les chrétiens au travers tous les âges. Il vous dit, voilà, vous êtes dans un monde qui est hostile. Et aujourd'hui, on est d'accord que même si ce n'est pas la nation qui prime, on est dans l'individualisme absolu. Aujourd'hui, c'est l'individu. L'individu fait ce qu'il veut, l'individu n'a de compte à rendre à personne. On a fait la culture inverse. Et donc, Pierre nous parle à travers ses épîtres, parce que c'est la portée universel. Il va parler aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes aussi, peut-être moins ici en Alsace, on est moins isolés, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup plus de communautés chrétiennes, mais nous sommes quand même isolés dans un monde qui est hostile, dans un monde qui a ses propres travers maintenant, ses propres idoles. Ne croyons pas qu'on n'est plus idolâtre. Les versets de Pierre venant par le Saint-Esprit nous touchent, car nous sommes de ceux qui participent au plan universel de Dieu pour sauver l'humanité. Et c'est ce que je veux partager ce matin, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc je vous propose de prendre vos Bibles dans 1 Pierre 1, 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans la fin des temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses et qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Jusque-là. Alors bien sûr, on a, comme d'habitude, hein, je n'aurais pas la prétention de faire tout et de souligner tout ce qu'il y a dans ce passage, qui est très très riche. Et Et donc ce matin, voilà la foi en Christ. Et la foi en Christ, c'est quoi? C'est le plan de salut universel de Dieu. Et voilà pourquoi, quand on a cette universalité, ça parle à tous les chrétiens. Depuis la crucifixion jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que le Seigneur permette que le monde continue, l'épître de Pierre, comme tous les autres épîtres, mais Pierre en particulier, s'adresse à tous les chrétiens. Il y a une question d'universalité. Donc le premier point, ça va être les salutations. Les salutations dans 1 Pierre 1, versets 1 à 2. Alors je vais passer très vite. On a Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Voilà, il commence sa lettre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il s'implique pas plus que ça parce que Pierre, dans les débuts de l'Église, c'est quelqu'un qui était connu. Et les personnes qui voyageaient avec ses lettres, ils n'avaient pas besoin de faire comme Paul, qui va souvent justifier son apostolat, justifier son appel. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, c'est connu, c'est acté. Et lui, il va commencer ces deux versets, comme je le disais, ces versets sont très riches, on va passer rapidement dessus. Il va poser déjà la trinité du Dieu un. Pierre, voilà ce qu'il va faire, il va dire, je suis apôtre de Jésus-Christ, vous les étrangers, il les appelle étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc Pierre, il va authentifier sa lettre juste en se présentant. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, c'est moi qui vais écrire. Et il va déjà, en quelques mots, quelques phrases, en deux versets, poser la Trinité du Dieu un. Et donc il va participer. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que cette épître de Pierre est moins doctrinale que les épîtres de Paul. Et pourtant, il va placer ça là, voilà, il y a déjà un Dieu trinitaire. Et il va s'adresser aux chrétiens qui sont étrangers et dispersés, on pourrait rajouter dispersés partout dans le monde aujourd'hui. On pourrait mettre ces étrangers qui sont dispersés à Wittenheim. Cette épître a une portée qui va dépasser toute la temporalité de la lettre elle-même. Donc je passe très vite parce qu'il y aurait beaucoup à dire, donc dans sur ces salutations, qui nous assurent, parce que beaucoup de théologiens parfois réfutent que Pierre soit l'auteur de cette lettre. Par la foi, nous croyons en la parole de Dieu complète, et nous croyons que Pierre a écrit vraiment cette lettre, poussée par l'Esprit, et il se présente, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et en deux, et ça va être le sujet principal de ce que je veux partager ce matin, c'est la foi. La foi en Christ. La foi en Christ, Pierre va la présenter déjà comme une espérance. On a beaucoup parlé de l'espérance que Christ est pour nous. Et dans 1 Pierre 1, versets 3 à 5, il va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être relevé dans les derniers temps. » Et là, nous entrons voilà vraiment dans ce que je voudrais partager ce matin, c'est la réelle espérance que nous avons en Jésus-Christ ressuscité. On a parlé, Pâques vient de passer, et quand on a fêté Pâques, pour nous, c'était pas quelque chose d'innocent, c'était pas quelque chose d'anodin. Enfin, j'ose espérer que chacun d'entre nous s'est encore réjoui. J'allais dire, Pâques, c'est tous les jours pour nous, parce que tous les jours, notre Sauveur est ressuscité. Mais d'autant plus à Pâques, on met cet accent sur que le tombeau, il est vide. Et Jésus avait partagé que si le tombeau n'était pas vide, et Paul le dira aussi, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine, vous êtes les plus malheureux des hommes. Et nous, notre Sauveur, il est ressuscité. Et c'est ça, cette espérance. Et c'est là que Pierre va partager. Il va vous dire, Jésus-Christ est mort, oui, mais il est ressuscité, il est vivant. Et au travers ce rappel de cette vérité, Pierre, il encourage les croyants à ne pas rester attachés à la vision du monde. Tout ce qui est dans le monde va flétrir. On en a parlé aussi dans les prières, dans les chants. Il leur dit, regardez, c'est un héritage que vous avez acquis. Il est au-delà de la temporalité. Il ne va pas souiller, il ne va pas se corrompre, il ne va pas flétrir. Vous imaginez, aujourd'hui, vous dites ça à quelqu'un. Vous avez un héritage que personne ne pourra vous prendre. Ni l'État ne va pas vous ponctionner quelque chose de... Non, non. C'est tout à vous. Il n'y a pas de corruption là-haut. On a du mal à l'imaginer dans un monde tellement corrompu. Et le leur aussi était corrompu. Et du coup, notre vision peut se corrompre. Et Pierre va nous rappeler, non, tout ce que nous avons eu, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ ont un héritage acquis. Et c'est l'espérance d'un trésor incorruptible qui est la vie éternelle. Et nous sommes de ceux qui avons été régénérés, parce qu'il va le dire, vous avez été régénérés pour une espérance vivante. L'espérance que nous avons, elle est vivante parce que Christ est vivant. C'est pour ça, parfois, il y a des chrétiens qui sont tout tristes. Il y a Ray Brooks qui disait, il connaissait des chrétiens, c'est un prédicateur qui disait, j'ai des chrétiens, on a l'impression qu'ils ont été baptisés dans du vinaigre. Alors, ils sont tout aigris. Quand ils parlent, on a l'impression qu'ils sucent un citron. Ils vont jamais bien. Ils vont jamais bien. Et il avait du mal à comprendre pourquoi ces chrétiens, leur espérance, elle était où? Parce que, avec le temps, ils avaient étiolé leur foi et leur espérance était dans ce qui nous entoure. Dans ce qui nous entoure. Et si nous regardons ce qui nous entoure, on peut être découragé. Notre espérance, elle peut tomber. Mais nous, notre espérance, elle est vivante parce que Christ est vivant. Et si nous regardons à nos richesses, nous pouvons vite désespérer. Mais si nous regardons à l'héritage, nous avons une réalité en Jésus-Christ. Et tout comme dans Jacques, Pierre, il va opposer deux mondes. L'apôtre, il va nous rappeler ce que nous espérons. Et voilà ce que le monde espère, voilà ce que vous, vous espérez. Et ça, c'est pas vain. Même si aujourd'hui, le monde se moque de Christ. Il va se moquer du Messie ressuscité. La mort de Jésus, ils n'ont pas de problème, mais la résurrection, ils ont un problème. Parce que la résurrection nous place devant la réalité de cette foi vivante, et de cette espérance, et du plan que Jésus, que Dieu avait pour nous. Et ce matin, on doit se souvenir de notre foi. On doit se souvenir que notre foi est une espérance. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va nous partager, dans Hébreux 11, verset 1, il va nous dire « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » C'est dans la même pensée. La foi, c'est une ferme assurance. C'est pas quelque chose d'incertain. C'est une réalité. Donc, ne perdons pas notre espérance. Et comme nous l'avons déjà entendu ces derniers temps, beaucoup de messages allaient dans ce sens. Ne nous soucions pas du monde matériel qui nous entoure, mais regardons à l'héritage que Christ s'est acquis pour nous. Et pourquoi il commence comme ça, Pierre? Parce qu'il va arriver à ce qu'on n'aime pas trop dans la chrétienté, la foi en Jésus-Christ dans l'épreuve. La foi dans l'épreuve. C'est la foi éprouvée. Dans 1 Pierre 1, versets 6 à 9, c'est là ce qui fait votre joie. Il fait le lien avec l'espérance qu'on a parlé. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans avoir vu et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Et là, à travers l'épreuve de la foi, un sujet qu'on n'aime pas beaucoup, et d'ailleurs beaucoup de gens qui sont réfractaires à la foi sont les premiers à le dire, si on doit souffrir, à quoi ça sert? Et quand j'étais plus petit, j'avais déjà peut-être partagé cette anecdote, quand j'étais plus petit, je voulais pas être chrétien parce que je croyais qu'il n'y avait que les chrétiens qui souffraient. Dans ma famille, on avait grandi, et parfois on avait tout le temps des épreuves, et c'était « Oh non, mais c'est pas juste !» Et j'avais l'impression que les gens à l'extérieur, tout allait bien. Et en grandissant, on remarque que non seulement ça va pas bien dans leur vie, mais eux, ils n'ont pas cette espérance. Ils n'ont pas cette espérance en Dieu. Et dès qu'il leur arrive quelque chose, ils tombent. Alors que nous, nous pouvons vaciller, nous pouvons même tomber, mais Dieu nous relève en Jésus-Christ. Et donc du coup, heureusement, le Seigneur m'a quand même convaincu qu'au-delà des souffrances, il n'y avait pas que ça dans la chrétienté. Mais c'est quelque chose qui en fait partie, parce que le monde souffre, et nous sommes dans le monde. Et donc nous avons des épreuves. Pierre nous dit en plus que la foi éprouvée, c'est pour éprouver notre foi, c'est pour la rendre plus pure. La foi dans l'épreuve donne un résultat incroyable. La louange, la gloire et l'honneur à Christ. On a du mal à le comprendre, on a du mal à le croire, mais beaucoup de personnes qui ont donné des témoignages, au moment où c'est arrivé, le Seigneur les a soutenus et ils ont rendu gloire à Dieu. Je pense à cet homme qui avait été déporté pour sa foi. Il avait juste à signer un papier et il pouvait aller voir son petit garçon qui était né depuis quelques semaines, qu'il n'avait encore jamais vu qu'il s'est fait enfermer avant. Et il redoutait ce moment parce qu'il disait au Seigneur, il était convaincu que si on lui proposait ce marché, il signerait les yeux fermés. Et finalement, quand l'officier russe, parce que c'est en Russie, lui a proposé ce marché, il s'est senti d'une paix, il a donné louange, gloire et honneur au nom de Jésus-Christ, et il n'a pas renié son sauveur. Et pourtant, ça n'a jamais été facile, et il dit, peut-être que maintenant je le ferai plus, mais il continue à travers son livre toute l'épreuve qu'il a eue, mais jamais le Seigneur l'a lâché. Jamais le Seigneur a permis qu'il renonce. Et il a toujours donné gloire, louange et honneur à Jésus-Christ. Et quand on l'a relâché, quelques années après, de nombreuses années après, l'officier qui l'a relâché, il a dit, j'espère que vous arrêterez de prêcher Jésus-Christ maintenant, hein, parce que sinon vous allez retourner chez nous. Il fait, ben alors dans ce cas-là, vous risquez de m'arrêter de nouveau. Je ne m'arrêterai jamais de prêcher Jésus-Christ. Voilà. Moi, quand on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible, et pourtant ça l'est, parce que ces personnes ont décidé que la foi éprouvée, c'était une foi qui rendait gloire, louange et honneur à Christ. Et la foi, c'est pas l'épreuve de la foi, c'est pas toujours ce genre de, j'allais dire, de grosses crises difficiles. Il y a tous les jours, on a des crises de foi, et pas que lorsqu'on abuse de chocolat. Parce que la crise de foi, elle est réelle. Et on en partage tout. Il y a parfois plein de petites choses qui s'accumulent, qui nous font tomber. Et la foi, elle est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve. Et l'or qui est précieux est mis à l'épreuve aussi. Alors notre foi est d'autant plus précieuse. Et c'est vivre dans un monde hostile à l'œuvre de la croix et du Messie. C'est une épreuve dans la durée, dans l'intensité. Nous, nous avons la chance de ne pas être persécutés au sens physique. Mais si vous regardez autour de vous, on peut se sentir oppressé moralement pour tout ce qui existe, avec toutes ces séries qui peuvent venir, toutes ces pensées, toutes ces lois qui viennent se greffer. Alors on n'est pas agressé physiquement, mais on devient de plus en plus des parias de la manière de penser commune. On a une espèce de dictat de la pensée, et dès qu'on pense autrement, on devient des parias. Et ça, ça peut être difficile à vivre, surtout quand on est jeune, parce qu'on ne pense pas de la même manière des autres. Et au travail, on est différent, et ça, ça peut être une épreuve longue, mais le Seigneur veut nous épurer pour que notre foi soit encore meilleure, et à la fin pour donner gloire à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit et pourquoi l'épître de Pierre nous parle? Moi, quand je l'ai lu, j'avais là vraiment l'impression qu'il s'adressait à nous. Il lui dit, « Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Voilà, il nous rappelle ça aussi, Pierre. Il nous rappelle que la foi en Jésus-Christ, c'est ce qui nous sauve. Et c'est tout. La foi éprouvée, c'est difficile. Les premiers chrétiens dont nous sommes issus avaient déjà les mêmes luttes, les mêmes épreuves. Mais déjà, par l'apôtre Pierre, Jésus-Christ exhortait son église naissante d'avoir la foi en lui, de laisser parfois la foi être éprouvée, de vivre et de se réjouir sur deux points, que Jésus-Christ apparaîtra, il reviendra nous chercher, et que la foi en Jésus-Christ sauve notre âme. Et aujourd'hui, combien de personnes veulent sauver leur âme? Dans tout un tas de choses, les gens disent « Ah, si on pouvait être sauvé !» Même dans d'autres courants religieux, les gens ils font les choses en tremblant parce qu'ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Parler avec un musulman, il ne sait même pas s'il est sauvé. Il va faire toutes ces choses et il ne sait pas. Il ne sait pas. Je lui ai dit, tu as mon respect parce que je ne sais même pas pourquoi tu te lèves le matin. Si tu fais tout ça, tu n'es même pas sûr à la fin d'être sauvé. Nous, nous savons que malgré tout, nos travers en Jésus-Christ, nous sommes sauvés parce que ça ne vient pas de nous. Tout ce que nous, nous pouvons faire, ça sera toujours que l'imperfection. Lui, ce qu'il a fait, c'est parfait. Et il y a une promesse du retour. Parce que Pierre, il vous dit, ah, vous êtes dans les épreuves, mais Jésus-Christ apparaîtra, c'est certain. Ce n'est pas quelque chose de facile d'être en l'épreuve de la foi, mais c'est un fait qui nous doit faire nous tenir bons en Jésus-Christ, de laisser Dieu agir. Et beaucoup de personnes avec leur recul, qui ont passé par des travers, par des difficultés, nous ont dit, une fois qu'on a laissé Dieu agir, Dieu a agi. Tant qu'on s'est tourné vers nos problèmes, à nous, vers nos difficultés, on a du mal à voir la sortie. Mais dès qu'on regarde, on a chanté le chant « Je lève les yeux ». Levons-les alors, même dans l'épreuve. C'est vrai que les circonstances peuvent être difficiles, mais levons les yeux vers le Seigneur et lui nous aidera. La foi est donc précieuse, c'est un trésor. Pierre la compare alors, pour ne pas que nous méprisions cette foi qui vient de Dieu, parce que nous sommes élus par le Père avant dans sa préscience. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché. Ne méprisons pas notre foi, mais laissons-la grandir. Et finalement, il termine par cela. La foi en Jésus-Christ, c'est le plan universel de salut de l'humanité. C'est le dernier point, hein, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est le dernier point que je vais souligner avec vous ce matin, c'est dans les versets 10 à 12 de 1 Pierre 1. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles étaient suivies, dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Quand on lit ça, je ne sais pas vous, mais quand on lit ça, on remarque que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas le début de quelque chose, De nouveau, ce n'est pas un plan de secours, mais c'est une finalité du plan de sauvegarde de l'humanité prévu par Dieu dès le commencement du monde. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que vivaient ces premiers chrétiens à qui Pierre adressait la lettre, c'est la même chose que vivront les chrétiens qui nous suivront, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est le plan divin, le seul qui sauve. Et c'est le plan que Christ et le Père et le Saint-Esprit avaient déjà, dès le début. Pierre est un Israélite, un Israélien. Il était contemporain et apôtre de Christ. Il avait la connaissance des Écritures, connaissait certaines choses. Et là, il va annoncer cela en leur disant que la foi qu'avait leur Père dans les Écritures, c'est une foi qui était en vue de la foi qu'ils ont aujourd'hui. La foi en Jésus-Christ, c'est la finalité, le plan depuis la création. C'est une réalité. Et c'est incroyable pour nous. Parce qu'on se dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Toutes les Écritures parlent de Christ. Pierre, il va annoncer que de nombreux prophètes ont recherché le Messie. Ils avaient cette foi, mais ils voulaient voir, ils voulaient connaître, ils voulaient ressentir ce que nous avons aujourd'hui, une foi qui sauve l'âme. Ils voulaient comprendre, voir, espérer, connaître la mort et la crucifixion du Messie et sa résurrection pour la gloire qui en découle. Parce qu'il était dit, il est dit cela, la gloire et les choses glorieuses qui en résulteraient. Ils voulaient attester d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et la gloire dont elles sont suivies, c'est nous, c'est les chrétiens. La gloire qui est suivie, c'est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ, crucifié, mort, mais ressuscité et vivant. Et ces personnes, ces prophètes, quand nous on lit les prophètes, enfin je ne sais pas vous, mais quand moi je lis les prophètes, ça remue. Ils ont vécu de grandes choses. Et pourtant, ils désiraient vivre ce que nous vivons. Ils ont plongé leur regard, ils ont gratté le temps, les époques, pour savoir si c'était pour eux. Ils désiraient les voir, ils désiraient les vivre, ils désiraient les ressentir ces jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et c'est assez incroyable le cadeau que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on en a conscience? Car plus encore qu'au temps de Pierre, aujourd'hui la parole est complète, elle est abordable, elle est dans notre langue. Nous avons un cadeau fait que les prophètes même nous enviaient. Sommes-nous conscients que Christ est le point central de notre foi, le pilier de notre foi? La Bible, elle est construite comme un sablier, ou un symbole de l'infini, comme ça. Toutes les Écritures convergent vers Christ, et une fois que Christ est mort, ressuscité, toutes les écrits sont inspirés par ce que Christ a fait. On a un point central, un point d'équilibre, c'est Christ. L'épître de Pierre sera christocentriste, parce qu'il nous rappelle que c'est en Christ que nous avons tout. On ne peut pas faire autrement, en Christ et en son œuvre. Toutes les Écritures tendent vers Christ, tout le Nouveau Testament part de Christ et de son œuvre, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Pierre annonce que la foi en Jésus-Christ était depuis le début le plan de Dieu pour nous racheter de notre manière de vivre. Et ça reste toujours d'actualité jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dans Hébreux 11, verset 13, l'auteur nous rappelle qu'il nous fait la liste de ce qu'on appelle les grandes personnalités de la foi, et il rappelle que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors il s'adresse aux patriarches, mais on peut voir aussi derrière tous ceux qui sont morts dans la foi. Ils avaient la foi, ils savaient que quelque chose allait venir, un salut allait venir, ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu eux-mêmes. Mais ils savaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Ça nous rappelle ce que Pierre nous dit au début de l'Épître, aux étrangers et aux dispersés. Nous sommes étrangers et voyageurs. Après les prophètes, l'apôtre y va même plus loin. Il dit que les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans les choses que nous vivons aujourd'hui, l'Évangile, la prédication de la Bonne Nouvelle et la foi que cela fait naître dans le cœur des chrétiens. Parce qu'il dit que même les anges désirent plonger leur regard dans ces choses dans lesquelles nous vivons, ça fait du bien quand on lit ces choses. Tout le monde nous envie des choses, mais alors si les anges commencent à vouloir les choses que nous vivons, vous imaginez ce que nous devons vivre, que nous devrions vivre, devrait inspirer et devrait vraiment nous faire prendre conscience de la valeur de ce que cela porte. Pierre, il est en train de dire, vous êtes dans un monde qui est hostile, vous êtes dans un monde qui se moque de vous par tout un tas de travers. Aujourd'hui, ça serait différent de l'époque, mais c'est la même pensée antique chrétienne. Mais lui, il nous dit, attention, ce que vous avez, les prophètes l'ont désiré de vivre. Et les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans ce que vous vivez, dans ces choses-là glorieuses, du changement de n'importe qui s'approche en Jésus-Christ et qui est sauvé. Ça paraît simple, mais ça paraît tellement incroyable. Parce que si je vous rappelle, ou si je vous renvoie à la loi, avec la liste de choses qu'il fallait faire, avec le sacrifice, mais c'était inconcevable qu'on avait juste à penser, à venir, s'humilier, reconnaître pécheur et que l'Esprit nous convainc du péché, et ça y est, nous sommes sauvés, on a accès à la vie éternelle. Alors bien sûr, après, il y a tout un cheminement, mais la simplicité et en même temps la complexité du plan de Dieu parce qu'il fallait la mort de son fils. Et c'est vraiment un cadeau, est-ce que nous sommes conscients? C'est ce que Pierre nous présente dans ce début. Vous avez quelque chose de précieux, la foi en Jésus-Christ. C'est pas tombé du ciel, parce que les premiers chrétiens étaient aussi beaucoup de la communauté juive, et il leur dit, attention, les Écritures parlaient déjà de Christ. C'est pas tombé du ciel, c'est quelque chose de réel. Et je terminerai maintenant. Donc le début de cette épître est très riche, on a vu, hein, des exhortations. Et tout comme Jacques, plus tard, Pierre, il annonce déjà les épreuves qui vont venir ou qui viennent déjà. Mais il annonce aussi qu'au-dessus de tout ça, il y a la foi en un Jésus-Christ vivant. Il y a la foi en Jésus-Christ qui vit et qui est passé par toutes les choses par lesquelles nous sommes passés pour nous comprendre et nous aider. Ces versets nous appellent à vivre comme des étrangers dans le monde, non pas en snobant le monde et en vivant à l'écart, mais en s'attachant à ce qui est vrai, la parole de Dieu, qui peut sauver notre âme. La foi en Jésus-Christ sauve notre âme, il nous est rappelé. Et nous dit de vivre en étranger dans le sens de ne pas épouser ce que le monde pense, quitte malheureusement à parfois dans certains pays à être persécutés, à être poursuivis pour leur foi. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous arrêtez pas d'être chrétien? Pourquoi vous renoncez pas ou vous reniez pas? Et ces personnes, ils préfèrent endurer l'emprisonnement injuste ou tout un tas de choses, tout un tas de tortures, plutôt que de renoncer à la foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont saisi, comme nous, nous saisissons aussi, la richesse, la puissance et le cadeau qu'est la foi en Jésus-Christ qui sauve notre âme. Et Pierre nous appelle alors que notre vie doit être christocentriste. Et ce matin, tout avant le culte, justement, Tom a partagé un peu ce passage-là, christocentriste. Christ au centre, Christ au centre de nos vies. Quand nous levons le matin, quoi que nous fassions, quoi que nous pensons, quoi que nous voulons faire, Christ est au centre. Et une fois que Christ est au centre, la vie chrétienne est plus simple. Je ne dis pas que la vie autour va être plus simple, hein, parce que plus Christ est présent dans nos vies, plus le monde va être différent à nos yeux. Plus ça sera difficile et plus parfois les amis vont partir. Justement, Ray Brooks disait, quand il s'est converti, tout le monde est parti. Il s'est converti, tous ses amis l'ont quitté. En une semaine, ses parents ont déménagé à l'autre bout de l'Amérique pour plus lui parler. Parce que lui, il avait un seul talent, quand il n'était pas converti, c'était de vendre n'importe quoi, à n'importe qui, peu importe le prix, même s'il n'en avait pas besoin. Donc il est devenu très très riche, avec les idées du monde. Et quand il s'est converti, quand il a fait de Christ le centre de sa vie, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Mais il a dit, bah, c'est pas grave, je continuerai comme ça, même sa fortune est partie. Mais c'est pas grave, parce qu'il a préféré faire de Christ son centre plutôt que tout le reste. Et c'est à ça que nous appelle Pierre. Il appelait déjà les premières communautés, il nous rappelle. Et je vous laisse vraiment ce verset du jour, j'allais dire, pour se souvenir, si vous devez retenir un verset. C'est 1 Pierre 1, 8, 9, ça fait deux versets, mais c'est le même. Hein. Lui que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour le prix de votre foi. Que cela vraiment nous aide à chacun à mettre un point sur notre vie de foi, un point sur la place de Christ dans nos vies, que vraiment le Seigneur nous aide à faire de lui le centre de nos vies. Voilà ce que je voulais partager ce matin, que vraiment chacun puisse prendre aussi un, vrai qu'on prend chacun un moment, silencieusement, sur vraiment ce que le Seigneur veut nous rappeler.